15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé et Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous répondons à vos interrogations et nous tentons aussi de prendre soin de vous. Et pour cela, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux tiques. Avec les beaux jours, ces vilaines bestioles repassent à l'attaque chaque année. Mais les connaissez-vous vraiment? C'est peu connu, mais par exemple, les tiques ne sont pas des insectes, mais des acariens. Où les trouve-t-on le plus fréquemment? Nous ferons le point, mais surtout, nous vous donnerons des conseils très pratiques pour éviter de vous faire piquer et même pour s'en débarrasser si vous en trouvez une sur votre corps. Pour en parler, nous recevrons une grande spécialiste du sujet, c'est Nathalie Boulanger. Elle est maître de conférence en parasitologie et membre du centre de référence sur la maladie de Lyme à Strasbourg. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. On va parler d'un autre sujet de santé d'actualité en ce moment, les allergies. Si vous faites partie de ceux qui ont les yeux qui pleurent, le nez qui gratte, eh bien ce focus devrait vous intéresser. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de sexualité et d'agressivité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous reprenons nos habitudes avec le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Tania.
Bonjour, je m'interroge depuis quelques temps. Je voudrais savoir si le cancer du cœur existe. On entend souvent parler du cancer du sein, du cerveau, de la prostate. Et je me demandais si c'était possible d'avoir une tumeur cancéreuse sur le cœur, que ce soit pour un homme ou une femme. Merci pour votre réponse.
Alors, question un peu pointue, et pour répondre justement précisément à cette interrogation, on a interrogé un spécialiste, le professeur Nicolas Danchin. Il est cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On l'écoute.
Le cancer du cœur lui-même, c'est quelque chose d'extraordinairement rare. C'est ce qu'on appelle généralement des sarcomes qui touchent le squelette du cœur, si on peut s'exprimer ainsi. C'est vraiment quelque chose de très très rare. En revanche, ce qui est un peu plus fréquent, ce sont les cancers, les métastases qui proviennent d'autres cancers et qui vont toucher généralement l'enveloppe du cœur qu'on appelle le péricarde, qui est une sorte de sac dans lequel se trouve le cœur. Et à cet endroit-là, il peut y avoir la fixation de cellules cancéreuses qui viennent d'ailleurs et qu'on appelle donc des métastases et qui peuvent progressivement venir envahir le cœur lui-même. Pour ce qui est du cancer primitif du cœur, qui encore une fois est rarissime, il y a eu quelques cas qui ont pu être guéris par des greffes de cœur.
Voilà donc pour la réponse du professeur Nicolas Danchin qui était au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est une question pour vous, c'est celle de Julien. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Depuis qu'on porte tous des masques chirurgicaux, j'ai l'impression que j'ai une mauvaise haleine. Enfin, en tout cas, dans le masque, au bout d'un moment, il y a comme une odeur un peu désagréable. Et j'ai l'impression que c'est plus dans les masques jetables que ceux en tissu. Qu'en pensez-vous?
Alors ça, Jimmy, vous êtes un pro sur ce sujet-là. Non, pas de la mauvaise haleine, mais des masques, en tout cas. Jimmy, est-ce que le fait de porter un masque a révélé, finalement, la mauvaise haleine de certains, comme en parle Julien? Ou est-ce que c'est le masque lui-même qui fait barrière devant la bouche et qui crée ce problème?
Eh bien, écoutez, de la même façon qu'un miroir renvoie votre propre image, eh bien, un masque vous renvoie votre propre odeur.
D'accord,
et
il n'y a pas de
sais,
mystère.
Il
n'y
a pas de mystère, parce que moi, je porte un masque puisque en travaillant toute la journée et aucune mauvaise odeur. Preuve que...
Et enfin, vous avez découvert ce truc qui me gêne tous les jours.
Et voilà. Non, mais moi, je ne souffre absolument pas. Je suis pas du tout incommodé. Alors peut-être que je souffre d'anosmie et que je ne me rends pas compte,
ah,
mais non.
Mais c'est ça.
Mais c'est simplement le fait de respirer et de renvoyer votre propre odeur. Et donc il suffit parfois de quelques petits trucs pour limiter ça.
Alors juste d'abord, la mauvaise haleine, puisque donc certains la découvrent aujourd'hui avec les masques, ça vient de quoi?
Alors c'est ce qu'on appelle l'halitose. Dans 70% des cas, c'est d'origine buccale. C'est-à-dire que ça peut provenir de gingivite, l'inflammation des gengives, qui est souvent liée par la plaque dentaire. Mais vous pouvez avoir d'autres pathologies comme la parodontite, qui va aboutir au déchaussement dentaire. C'est le tissu de soutien de la dent. Mais si vous avez des caries, des abcès,
en gros, toute bactérie, tout truc
exactement
qui foisonne un peu dans
ou
la
alors,
bouche,
si
ça crée une mauvaise
hygiène
odeur.
Bucale ouais, plutôt précaire, si ouais, vous mangez un peu n'importe comment et que vous avez des débris alimentaires, mais aussi à jeun, lorsque vous ne mangez pas le matin au réveil, on a mauvaise haleine car en fait,
moi
on
non,
fabrique
mais...
des corps cétoniques. En fait, on est à jeun, le jeûne, ces corps cétoniques donnent une mauvaise haleine. Et d'ailleurs, chez le diabétique qui est en décompensation, lorsque les cétones sont très élevés, il y a une odeur un peu de pomme.
J'allais le dire, ça sent
exactement,
ouais,
pomme un peu pourrie, aigre douce. Et donc, ça peut être naturel. Et puis, chez certains enfants, lorsqu'ils ont une angine, les parents rapportent une mauvaise haleine, donc une angine un peu bactérienne.
Encore
peut
une
donner
fois, ce sont
haleine
des bactéries, des choses qui pullulent
exactement
un peu dans
mais
la bouche.
Mais l'immense majorité ouais des cas vient d'un problème bucco-dentaire.
Et alors, Vous allez, j'imagine, nous donner la recette qui n'est pas finalement si compliquée, j'imagine.
Ouais, c'est l'hygiène, se laver les dents correctement. Alors parfois, ça peut être un reflux. Ouais. Si vous avez un reflux, il faut le traiter. Les soins dentaires et ne pas attendre d'avoir mal aux dents pour aller voir son dentiste. Donc, un détartrage régulier, traiter
des caries.
Parfois,
ça peut régler le problème de mauvaise haleine.
Exactement.
Déjà, on en avait
et puis,
déjà
vous
parlé.
Brossez les dents. Les bains de bouche, pourquoi pas avec parcimonie, puisque si jamais vous utilisez en trop grande quantité, vous risquez d'abîmer votre flore buccale. Et donc, il suffit de consulter, même si. Voilà, la mauvaise haleine, c'est subjectif, un chewing-gum et puis on passe à autre chose.
D'accord, mais alors, juste je reviens sur le masque, j'en profite. On en porte encore ou pas des masques,
Jimmy ? Oui, évidemment, l'épidémie, elle est contrôlée, mais elle n'est pas arrêtée. En Nouvelle-Zélande, ils ont de nouveaux cas, alors que ça faisait un mois qu'ils n'en avaient plus. En Chine, à Pékin, ils sont très inquiets de la situation. On a été confinés, on a accepté le confinement de façon assez sérieuse et désormais, on a plus de liberté, mais tout d'un coup, on a l'impression que ce masque est devenu insupportable à porter. Or, c'est peut-être la condition nécessaire et j'espère suffisante pour éviter d'avoir une deuxième vague, donc portons-les. Ça nous permet d'ouvrir les restaurants, que les enfants retournent à l'école, peut-être d'avoir une perspective de vacances et de laisser peut-être un peu de repos et de répit aux soignants qui en ont besoin. Donc, porter des masques, c'est une toute petite contrainte, mais à mon avis, dans l'intérêt de tous, ça peut vraiment être utile.
Et pour ceux qui sont gênés par leur haleine, puisque c'était la question du jour, un chewing-gum dans le masque, sous le masque, ça marche aussi.
Ça
merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Julien qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. Ce sera Nathalie Boulanger, spécialiste des tiques. Ces petites bêtes sont de sortie. Il faut s'en méfier quand elles sont capables de nous transmettre des virus et des bactéries, par exemple. Alors, où les trouve-t-on ? Comment les enlever si malgré tout, vous vous faites piquer ? On vous explique tout ça dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Nathalie Boulanger. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférence en parasitologie à l'Université de Strasbourg et entomologiste au Centre de référence sur la maladie de Lyme dans la même ville. Alors avec vous, on va faire le point sur les tiques aujourd'hui, car ça y est, on est en juin, donc on est dans la période, on va en parler, durant laquelle elles passent de plus en plus à l'attaque, si je puis dire. D'abord, on va quand même reprendre un petit peu du début. On parle des tiques de façon générale, mais en réalité, il y a plusieurs types de tiques en France même.
Alors, on va même commencer encore un peu plus haut. Dans le monde, vous en avez environ 900 et c'est vrai qu'en France, il y a 40 espèces qui nous intéressent et deux particulièrement, il y a celle qu'on appelle la tique Ixodes ricinus et une autre moins fréquente qu'on appelle Dermacinthor.
Mmh. Les tiques, contrairement à ce qu'on croit, on dit « Oh, ces insectes », en fait, ce ne sont pas des insectes, je crois.
Non, effectivement, c'est pas du tout le même groupe que les moustiques, ça vole pas, c'est dans la végétation, dans l'environnement, c'est donc des petites, ce qu'on appelle des petits arthropodes avec une forme globulaire et des pièces piqueuses et qui passent par différentes stades de développement et ces différentes stades, elles peuvent piquer l'homme, mais il y en a une particulièrement qui est plus dangereuse parce qu'elle est de petite taille, c'est ce qu'on appelle la nymphe.
C'est entre le bébé tique, on va dire, et la tique adulte, c'est ça ?
Exactement. Alors, vous avez la larve, la nymphe et les adultes mâles et femelles.
Mmh. Jimmy,
les tiques, à quoi ça ressemble justement et ça fait quelle taille ?
Alors justement, en fonction de ces stades, il y a des tailles très variables. La larve, elle est minuscule. En plus, elle est translucide. Donc, quand on l'a sur la peau, on la voit pas jusqu'à ce qu'elle soit gorgée et piquée. Donc, elles font quelques millimètres. Et bien sûr, plus elles vont se gorger de sang, puisqu'elles sont ce qu'on appelle strictement hématophages, plus elles vont grossir et être visibles sur notre peau.
Mmh. Elles s'attaquent toutes à l'homme. D'ailleurs, vous avez dit qu'en France, donc, il y avait une quarantaine d'espèces, enfin, de types de tiques. C'est laquelle qui nous enquiquine vraiment, dont on parle là, puisqu'on n'arrête pas nous dire, ça y est, c'est la saison des tiques. C'est laquelle qui nous embête là en ce moment ?
Alors, c'est celle qui est la plus répandue, c'est Ixodes ricinus. Alors, pourquoi elle nous embête le plus ? Parce qu'elle n'est pas du tout exigeante dans la prise de son repas sanguin. Elle peut se nourrir sur beaucoup d'animaux différents. Et l'homme, quand il va dans son écosystème, il peut se faire piquer. C'est ce qu'on appelle un hôte accidentel.
Accidentelle, parce que ce n'est pas nous qu'elle préfère, en fait, la tique.
Non, ce n'est pas nous. Et puis, si on n'existait pas, elle se développerait dans l'environnement de toute façon. Et donc, cette tique peut piquer des rongeurs, principalement, des oiseaux et des grands mammifères, parce que la stase adulte a besoin de beaucoup de sang.
Et les cervidés, par exemple, je crois.
Voilà, les cervidés, ça pose un gros problème parce que plus il y en a, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de tiques dans les endroits où prolifèrent les cervidés, mais c'est pas la seule raison de la prolifération des tiques dans notre environnement.
Docteur Jimmy Mohamed.
On parle souvent de la saison des tiques, mais est-ce qu'il y en a vraiment une ? Et d'ailleurs, s'il y en a une, elle va de camp à camp ?
Alors, ça dépend dans quelle zone de France on se trouve. Si vous êtes dans l'est de la France, en général, on considère qu'il y a deux pics d'activité parce que pendant la période hivernale, elle va hiberner. On appelle ça la diapause. Par contre, si vous habitez sur la côte océanique, hein, par exemple, on fait des études en Bretagne, eh bien, vous pouvez collecter des tiques toute l'année. Donc, il faut se protéger des tiques toute l'année, même en hiver.
Par contre, il y a des zones en France où il n'y en a pas du tout ou presque pas. Je crois sur le pourtour méditerranéen, on est assez épargné par ce phénomène. Hein.
Oui, alors effectivement, vous soulignez un point essentiel. Elle est très sensible à la sécheresse. Donc, le pourtour méditerranéen, quand c'est trop sec, eh ben, elle n'aime pas ça. Et on va la retrouver donc en France, dans les zones humides, c'est-à-dire où il y a une bonne hygrométrie, c'est-à-dire c'est dans les forêts de feuillus. On dit souvent aussi forêts mixtes, conifères et feuillus, parce qu'elle va se retrouver dans la litière des feuilles. Et c'est là où elle va donc se reproduire et faire ses diaposes et donc se réhydrater, et ça c'est très très important.
Donc vous dans l'Est, là à Strasbourg, vous êtes dans le nid des tiques en France, c'est là où il y en a le plus, on peut dire ça ?
Alors il y a l'Est de la France, mais il y a aussi le Massif central, la région centre, hein, qui est aussi très concernée par la présence des tiques, mais on peut dire que sur tout le territoire français, excepté le pourtour méditerranéen, vous avez cette tique sodette.
Jimmy ?
Est-ce que les tiques sont en augmentation depuis 10, 15, même 100 ans, et est-ce qu'on a une explication à ça ?
Alors, à l'échelle de la dizaine d'années, on voit pas de différence. Par contre, si on se place à l'échelle, je dirais, du demi-siècle, on a clairement observé une augmentation des tiques dans l'environnement. Et en fait, c'est dû à une modification de nos écosystèmes. Alors, c'est très global. C'est modification de la culture forestière, la prolifération du gibier. On voit qu'il y a une explosion de cervidés, de sangliers. Et ces gros gibiers, donc, sont très importants pour maintenir les populations de tiques. Et il y a aussi, plus généralement aussi, souvent on n'y pense pas, il y a des raisons socio-économiques. La désertification rurale fait qu'on ne cultive plus les sols, donc il y a des friches, et tout ça constitue des écosystèmes que la tique Ixodes aime beaucoup.
Donc c'est un peu de notre faute, hein, finalement, si elles sont en augmentation, c'est ça ?
Oui, je pense qu'on peut faire notre mea culpa là-dessus.
Nathalie Boulanger, on ne fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous en dire un peu plus sur ces bébêtes, les tiques, qui nous piquent et peuvent nous transmettre parfois des maladies. Alors justement, il n'y a pas que la maladie de Lyme dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Vous ne le savez peut-être pas, mais les tiques transmettent aussi des virus, par exemple. On vous détaille tout ça dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Nathalie Boulanger. Vous êtes maître de conférence en parasitologie à l'Université de Strasbourg. Alors, avec vous aujourd'hui, on fait le point sur les tiques. Et justement, est-ce qu'on a une idée de combien de personnes finalement, parce que bon, les tiques, on en parle, mais ce qui nous inquiète, c'est de nous faire piquer. Est-ce qu'on sait combien de gens se font piquer peut-être chaque année ou quelle part de la population s'est déjà fait piquer par une tique ?
Alors, il y a depuis quelques années, enfin très peu de temps, hein, je dirais 3-4 ans, il y a une application smartphone pour déclarer ses piqûres de tiques. Donc, il y a plus de 4000, mais c'est largement sous-estimé parce que beaucoup de gens qui se font piquer par les tiques ne déclarent pas simplement par cette application leur piqûre de tique. Donc, oui, il y en a beaucoup.
On ne s'en rend pas compte, ouais. Est-ce qu'il y a des peaux à tiques ? D'ailleurs, on dit qu'il y a des têtes à poux, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque de se faire piquer parce que, j'en sais rien, ils ont une odeur particulière ou pour une autre raison ?
Alors, en fait, les tiques sont très sophistiquées dans leur système de détection des hôtes. Hein. Elles ont des organes qu'on appelle olfactifs. Hein. Elles vont sentir les odeurs et la chaleur. Et en fait, effectivement, il y a des peaux à tiques. Alors, on travaille dessus. Hein. On essaye de voir qu'est-ce qui en est responsable. C'est bien connu pour les moustiques. Mais c'est vrai que pour les tiques, c'est plus intuitif. Hein. Mais, on l'observe. Il y a des gens qui se font beaucoup piquer, qui ont plusieurs tiques sur eux. Et d'autres qui ne sont que très, très rarement piquées. Même pas du tout. Donc oui, il y a des peaux à tiques.
Jimmy ?
Je ne sais pas si c'est lié à l'exercice urbain que je peux avoir, mais des Parisiens ou des Franciliens, lorsqu'ils ont été piqués par des tiques, sont tout d'un coup catastrophés. On est d'accord que ce n'est pas parce qu'on se fait piquer qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On peut aussi aller très bien.
Oui, parce que toutes les tiques ne sont pas infectées. Alors c'est vrai qu'elles contiennent beaucoup de choses, mais il y a un délai dans la transmission pour ces agents infectieux, hein, notamment pour les bactéries et les parasites. En plus, on a, heureusement pour nous, une bonne immunité cutanée, donc toute personne piquée ne va pas développer une maladie. Et toutes les tiques ne sont pas infectées. Hein. Il y a, par exemple, pour la maladie de Lyme, c'est 10 à 20% des tiques. Et pour les autres agents infectieux susceptibles d'être transmis, en général, on considère que c'est 1 à 2%.
Oui, donc finalement, c'est assez faible. Alors justement, elles nous transmettent quoi, les tiques, éventuellement, comme maladie, virus, champignons, je ne sais pas, parasites? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous transmettre, ces tiques?
Alors, bien
parce qu'on
sûr,
parle que de Lyme, mais il n'y a pas que Lyme.
Voilà,
mais,
voilà. Mais bon, c'est vrai que de c'est loin, c'est la, les cas sont les plus nombreux pour la maladie de Lyme, hein, 50 à 60 000 cas par an. Vous avez d'autres bactéries qu'on appelle Anaplasma, vous avez des Rickettsia, vous avez un parasite qu'on appelle Babesia, mais là, je dirais le contexte immunitaire de la personne piquée va être très très important. C'est vrai que les personnes qui sont immunodéprimées vont être beaucoup plus sensibles, mais c'est valable pour tout agent infectieux hein, qui se trouve au contact d'une personne immunodéprimée, ça va s'installer plus facilement. Et on s'en rend compte qu'il y a des bien sûr transmissions, mais que le système immunitaire neutralise, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des sérologies positives pour Borrelia, pour Anaplasma ou pour Rickettsia, mais qu'en fait ils déclarent pas forcément la maladie. Donc heureusement on a cette immunité.
Docteur Jimmy Mohamed.
Je crois que la piqûre de tique n'est pas très douloureuse, et d'ailleurs on s'en rend compte finalement lorsqu'on en retrouve une accrochée. D'ailleurs, combien de temps elle peut rester accrochée, la tique, avant de tomber? Est-ce qu'elle peut nous sucer le sang de façon indéfinie?
Alors, je vais répondre à la première partie de votre question parce que ça suscite quelque chose de très intéressant. En fait, la tique va injecter sa salive et sa salive va nous anesthésier très localement. C'est pour ça qu'on sent pas la piqûre. Hein. Ça va inhiber la sensation de piqûre, de douleur. Ça va même immunodéprimer localement. Donc, c'est pour ça qu'on la sent pas et qu'on la rejette pas comme d'autres choses qu'on pourrait rejeter. Et le repas sanguin en fonction des stades dont je vous ai parlé initialement, c'est-à-dire la larve, la nymphe ou l'adulte, ça va de 3 à 10 jours. Et la nymphe qui nous pique le plus fréquemment, c'est en général 3 à 4 jours.
Quand on rentre d'une zone à risque, par exemple une balade en forêt, on a compris, où c'est humide, on a été faire un pique-nique par exemple, il faut vraiment s'inspecter le corps, c'est très important, et celui de ses enfants, mais est-ce qu'il y a des zones en particulier au niveau de notre corps qu'il faut regarder, inspecter particulièrement?
Oui, parce que elles vont se mettre elles sont sensibles à la dessiccation. Donc en fait, sur notre corps, elles vont se mettre dans les zones chaudes et humides. Hein. Donc ça va être le creux du genou, les aisselles, les organes génitaux, le nombril et le cuir chevelu, notamment chez les enfants. Donc c'est important chez les enfants qui sont souvent à la taille des hautes herbes de leur protéger le cuir chevelu pour éviter qu'ils soient piqués dans la tête, où là une tique peut facilement passer inaperçue.
Et oui, puisque dans les cheveux, il faut regarder effectivement. De retour de balade. Jimmy, une dernière question.
Donc après l'inspection méticuleuse, si on en découvre, il faut l'enlever dans un délai assez rapide, on ne la laisse pas traîner?
Il y a un délai de transmission, je vous ai dit 12 à 24 heures par exemple pour la Borrelia de la maladie de Lyme. Donc c'est vrai que l'extraction le plus rapidement possible après la piqûre est absolument essentielle. Donc c'est la meilleure prévention. Une fois qu'on est piqué ou qu'on revient d'une zone où on sait qu'il y a des tiques, c'est de s'observer au niveau corporel et de les extraire le plus rapidement possible.
Nathalie Boulanger, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons passer aux conseils très pratiques. Si vous découvrez que vous avez été piqué par une tique, que vous en trouvez une fixée sur votre corps, comment la retirer en toute sécurité? Et puis que faut-il faire ensuite, hein? Évidemment, on parlera aussi des astuces pour éviter tout simplement ce genre de piqûre, car mieux vaut toujours prévenir que guérir. Tout ça, c'est juste après. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous Nathalie Boulanger, vous êtes parasitologue à l'université de Strasbourg. Alors avec vous on parle des tiques aujourd'hui et à présent on va passer aux conseils pratiques. Alors si je découvre que j'ai une tique, je sais pas, derrière l'oreille par exemple ou près de mon nombril, puisque vous avez dit que c'était une zone à risque entre guillemets, en tout cas qu'elles aiment ces tiques, comment il faut réagir? Comment ça se retire précisément?
Alors il y a des petits systèmes qui sont vendus qu'on appelle des tire-tiques. Ça ressemble à des petits pieds de biche de différentes tailles. Ça marche relativement bien, mais si on n'en a pas à disposition, il y a les pinces fines. Alors il faut vraiment que ce soit pointu, mais tout le monde n'a pas ça non plus. Sinon, si on a une pince à épiler, en prenant bien la tique le plus près de la peau pour essayer de bien l'extraire. Tourner dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Surtout rien mettre dessus parce que ça change rien.
Oui, il y en a qui disent qu'il faut mettre de l'éther pour les endormir ou je ne sais quoi.
Non. On extrait. Par contre, très important, une fois qu'on a extrait, on désinfecte et on se lave les mains et on surveille le point de piqûre pendant 3 à 30 jours pour voir s'il y a quelque chose qui se développe.
Il n'y a pas un risque en retirant la tique si la tête reste coincée, enfin je sais pas, on raconte toutes sortes de choses ou qu'elle régurgite quelque chose.
Ouais. C'est pas vraiment la tête, c'est les pièces piqueuses. Alors là, c'est pareil, le système immunitaire de la peau est bien fait. Même s'il reste quelque chose, c'est pas la peine d'essayer de triturer. Le système immunitaire va résorber ce petit nodule cutané qui va se faire et on fait rien. On met rien dessus parce que c'est vrai qu'on mentionne souvent la notion de régurgitation, mais là, c'est pareil, c'est pas documenté. Donc, on extrait le mieux possible, on désinfecte et on surveille la zone de piqûre et on surveille aussi son état de santé. Est-ce qu'on se sent très fatigué? Est-ce qu'on a une fièvre? Alors là, il faut consulter. Et ce qu'on suggère aussi à certains moments aux parents qui ont des enfants qui se sont fait piquer, c'est de noter la piqûre de tique sur le carnet de santé.
Ah oui, quand même. Ouais, c'est bien comme ça. On a effectivement ce point de repère si quelque chose survenait dans les jours ou les semaines qui suivent. Docteur Jimmy Mohamed.
Autant surveiller une éruption cutanée, c'est plutôt facile et les gens ont compris. En revanche, je vous dis qu'il faut aussi surveiller l'apparition d'autres symptômes comme de la fièvre. Mais je ne sais pas si on se met à faire un petit 38, est-ce qu'on est sûr que ça peut être lié à la tique et comment est-ce qu'on peut confirmer ça? On se rend chez son médecin traitant, on ne va pas aux urgences. Mais sous quel délai on peut avoir de la fièvre? Est-ce que ça peut arriver aussi rapidement que l'éruption cutanée?
Alors le syndrome pseudo-grippal, c'est en général 7 à 10 jours. Je dirais que quand on sait qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de tiques et qu'on a été piqué par une tique, malheureusement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en général, les médecins sont quand même sensibilisés de plus en plus aux tiques et aux maladies qu'elles sont susceptibles de transmettre. Donc, je crois qu'il faut dire, voilà, j'ai été piqué par une tique ou je me suis promenée en forêt. J'ai peut-être été piqué par une tique parce que je suis dans une zone où il y a beaucoup de tiques.
Alors, Nathalie Boulanger, on dit quand même qu'il vaut mieux prévenir que guérir toujours. Alors comment on évite d'attraper une tique? Je crois que quand on va se balader en forêt, par exemple, les vêtements que l'on porte, le fait d'être quand même couvert, c'est très important.
Alors c'est vrai que c'est difficile pendant le pic d'activité. On a parlé par exemple dans la région Est, on est à un pic d'activité, c'est mars, avril, mai, juin, quand il fait chaud. C'est difficile d'être couvert, mais c'est vrai que des vêtements légers couvrants, de couleur claire, ça permet de les repérer facilement. C'est quand même une bonne prévention. Et pour les gens qui font beaucoup de marches et qui ont une peau à tiques et qui vont dans des zones où il y a beaucoup de tiques, le port de guêtres, parce que les tiques sont dans la végétation, c'est une excellente protection mécanique. L'utilisation des répulsifs cutanés, je suis plus réservée parce que pour les gens qui sont régulièrement, comme les gens qui travaillent à l'Office national des forêts...
Attendez, quand vous parlez de répulsifs cutanés, c'est par exemple des choses qu'on utilise contre les moustiques, c'est ça?
C'est exactement pareil, mais quelque chose qui est vraiment très important pour les moustiques quand on va en zone tropicale pour se préserver du paludisme qui est mortel, ça je pense que c'est absolument nécessaire. Pour nous, les tiques, elles font partie de notre environnement, malheureusement, de plus en plus. Donc, je pense que la protection mécanique, c'est celle qu'il faut privilégier, en plus d'une protection environnementale, si on sait que, par exemple, on habite en la campagne et qu'il y a beaucoup de tiques.
Docteur Jimmy Mohamed.
Mais est-ce qu'on peut se faire piquer, par exemple, lorsqu'on va pique-niquer dans des parcs en ville ou c'est simplement réservé aux zones forestières un peu boisées ou même peut-être dans son propre jardin?
Alors les dernières données, bien que ce soit documenté depuis les années 90, qu'il y a des tiques dans les parcs, il y avait eu une étude à Lyon il y a plusieurs années, on a refait des études dans les parcs de Strasbourg, c'est vrai que partout vous avez de la litière de feuilles, puisqu'on laisse de plus en plus des endroits végétalisés, et bien si vous avez de la litière de feuilles, c'est ombragé, et bien là on trouve des tiques.
Donc dans son propre jardin, il y a des conseils aussi peut-être pour les éviter?
Oui, jardin urbain ou en zone rurale, puisque les oiseaux peuvent aussi amener des tiques. Alors, on conseille, comme la tique est sensible à la dessiccation, si vous coupez votre herbe, la tique n'aime pas ça. Si vous ramassez les feuilles, vous les mettez dans le compost, par exemple. Vous évitez les tas de bois où il peut y avoir beaucoup de rongeurs qui se mettent. Eh bien, ça, c'est aussi des bonnes préventions environnementales à observer.
Nathalie Boulanger, pour terminer, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, on ne fait pas assez attention aux tiques? La population, elle est sensibilisée à plein d'autres problèmes, on va dire, de santé publique. Mais les tiques, on sous-estime un peu. Il y a d'autres pays qui font mieux que nous en termes de prévention?
Alors, c'est vrai qu'au niveau européen, on n'est pas les premiers. Je crois qu'on devrait prendre modèle sur les Hollandais qui ont développé des programmes très, très avancés. Ils analysent beaucoup les écosystèmes. En Suisse, ils font aussi beaucoup de messages de prévention télévisés à la radio. Pendant la période d'activité des tiques, je pense que ce serait important de sensibiliser puisqu'elles sont présentes dans notre environnement et qu'on doit apprendre à vivre avec. Il faudra aussi, bien sûr, analyser pourquoi elles ont tellement augmenté pour essayer de justement faire diminuer leur présence dans l'environnement. Mais je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de sensibilisation et du personnel médical et du grand public, parce que dans l'Est de la France, on est sensibilisé depuis longtemps, mais je pense qu'il y a d'autres régions de France où on est beaucoup moins sensibilisé.
Merci beaucoup Nathalie Boulanger d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un point sur les allergies, un autre thème de saison. Pourquoi devient-on allergique? Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'allergiques? On vous explique tout ça très vite. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on vous propose que des sujets de santé d'actualité, hein, puisqu'on va parler des allergies. Savez-vous pourquoi on devient allergique? Parfois du jour au lendemain, quels sont les symptômes principaux? Et si on peut en guérir, justement, Benjamin Lévesque est parti à votre rencontre sur le terrain, vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
C'est le corps qui rejette certains aliments, certaines substances, et puis c'est une façon au corps de réagir et de dire qu'il n'aime pas ça.
C'est pas forcément l'allergène qui provoque l'allergie, mais c'est le système immunitaire qui réagit face à l'allergène.
Certains vont avoir la gorge qui gratte, certains vont gonfler. Il y a en effet différentes étapes et je pense différents degrés, mais le corps en effet se défend de cette allergie parce qu'il ressent une problématique et il se défend.
Je sais que souvent les personnes qui sont asthmatiques sont allergiques aussi à tout ce qui va être des pollens, des acariens, des céréales, etc. Notamment tout ce qui va être allergène cutané, poils de chien, poils de chat, acariens, etc.
Oh, ça peut être de l'eczéma, ça peut être des boutons, ça peut être des yeux rouges.
Je pense qu'il y a de plus en plus d'allergies, ouais, parce qu'on est plus sensible à cause de la pollution de l'air.
Je crois qu'on peut se désensibiliser en ingérant une petite dose quotidienne ou mensuelle d'allergène.
Il y a des traitements, il y a des spécialistes qui permettent de détecter déjà quelle sorte d'allergie on a. Et ensuite, il y a des traitements, des médicaments qu'on peut prendre pendant une période pendant les allergies.
Bon, bah les allergies, finalement, c'est assez bien connu quand même, hein, Jimmy.
Il y avait de bonnes idées, de bonnes notions.
Nous, on va reprendre du début parce qu'on a quand même besoin de reprendre tout ça. Jimmy, moi, je suis allergique, par exemple. Pourquoi mon voisin ne l'est pas? Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème dans mon système immunitaire, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, le corps humain, c'est une véritable sentinelle et il est là pour détecter des hôtes étrangers, des corps étrangers comme les virus, les parasites ou des bactéries. Et pour une raison un peu étrange, il y a un dérèglement du système immunitaire avec une perte de la tolérance vis-à-vis de certaines substances qui, à la base, paraissent inoffensives, mais qui vont être vécues comme une agression par le système immunitaire et qui vont développer l'allergie. 25 à 30% des gens sont allergiques dans la population générale à quelque chose, mais il faut évidemment une prédisposition génétique, raison pour laquelle nous ne sommes pas tous allergiques. Et effectivement, ça se fait en deux temps, l'allergie. Une première phase de sensibilisation, vous êtes en contact avec un allergène, vous allez produire des immunoglobulines de type E qui, à la base, servent à combattre les parasites. Et puis, dans un second temps, lorsque vous allez de nouveau être exposé à l'allergène, vous allez produire des mastocytes qui vont entraîner une libération d'histamine responsable de l'allergie avec des signes cutanés, digestifs ou respiratoires.
Alors, puisqu'on parle là des allergies au sens large, on ne va pas rentrer dans le détail, les principaux symptômes, c'est quoi?
Alors, c'est
ceux
très
qui
large.
Se mouchent en ce moment, ils savent.
Voilà, alors, le plus courant, c'est la rhinite allergique, le nez qui coule, la gorge qui gratte, les yeux qui grattent avec la conjonctivite, mais ça peut entraîner des véritables crises d'asthme chez les asthmatiques. Et vous avez le droit aussi d'avoir une forme cutanée avec de l'urticaire, notamment lorsque vous avez des allergies alimentaire. Et enfin, on a la grande famille de la dermatite atopique qu'on appelle l'eczéma, qui peut donner des signes cutanés.
On en a parlé il y a quelques jours, bien sûr. On confirme qu'on est allergique grâce à des tests, on va chez le dermatologue, enfin, l'allergologue plutôt, et on fait ce qu'on appelle les prick tests, c'est ça ?
Exactement, c'est des petits tests cutanés qu'on peut faire à tout âge. On fait en général sur l'avant-bras, parfois chez le dos au niveau des enfants. On met plein de petites quantités d'allergènes qui ont été purifiées à base d'acariens, de pollen, de chat, peu importe. Et à ce moment-là, on vérifie s'il y a une réaction qui se fait face à un témoin. Soit il y a des papules qui arrivent, témoin d'une allergie, soit il ne se passe rien et donc vous n'êtes pas allergique.
Bon, en ce moment, pour ceux qui souffrent des allergies, on va dire rhume de foin, il y a des traitements quand même qui fonctionnent.
Traitements antihistaminiques disponibles à la pharmacie qui sont aussi efficaces que ceux prescrits par votre médecin et ne pas hésiter à en prendre pendant de longs jours, voire de longues semaines, puisqu'il faut un certain temps avant qu'il soit efficace. Donc on ne le prend pas 2-3 jours, prenez-le toute la saison estivale.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo aujourd'hui, Catherine Blanc, avec elle il sera question de sexualité qui peut parfois rimer avec brutalité, un sujet un peu touchy c'est vrai, mais Catherine va nous décrypter tout ça en douceur, bien sûr, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et elle nous rejoint pour cette dernière séquence de l'émission, la chronique sexo de Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Hakim qui a 41 ans, je vous la lis. Pendant que nous faisons l'amour, ma femme me demande de l'insulter, de lui serrer le cou. Cela me bloque et me perturbe, comment réagir? C'est vrai que c'est particulier Catherine, hein, comme question et puis comme demande aussi. Qu'est-ce qu'elle recherche sa femme finalement? Alors sa femme ou les femmes qui demandent ce genre de choses, désir de se faire violenter. Quand on fait de l'amour, on n'a pas envie d'être violenté, je ne comprends pas moi.
En fait, il y a plusieurs choses. Il y a ou une éducation à la sexualité qui s'apparente à une éducation de pornographie et qui du coup a trouvé dans ce cadre pornographique l'idée, que la place que devait avoir une femme par rapport aux hommes. Notamment, c'est le cas quand il y a des très jeunes femmes qui découvrent la pornographie et qui se forgent une idée de la féminité, de l'intérêt que les hommes peuvent avoir pour elles, qu'à la condition d'être brusquées.
Insultées carrément, demandées à être insultées.
Oui, ben c'est parce que c'est le tu aimes sa salope, typique de la pornographie. Ça peut être aussi parce que dans son histoire, les rapports, le rapport de son père avec sa mère,
peut-être un peu violent.
Violent verbalement ou physiquement, ou parce qu'elle-même était une enfant maltraitée verbalement, et que finalement, le rapport à l'autre, le rapport à l'amour, se noue, et l'excitation de ce lien se noue au travers de cette violence. Oui.
Jimmy ?
Du coup, la réaction de son compagnon Hakim, elle est plutôt saine, finalement, d'avoir peur de pas vouloir faire ce genre de choses, mais pour autant, ceux qui accepteraient sont pas non plus des pervers, si, quand même, c'est des gens, si on accepte de répondre
coup,
à ces...
Voilà, oui.
Est-ce que ça en fait de mauvais hommes?
Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, sa réaction est plutôt saine. Mais parce que, évidemment, il ne veut pas de mal à cette femme qu'il aime ou qu'il désire. Ceci étant, il a peur aussi, ça le met mal à l'aise. Et donc là, ça réveille autre chose. C'est toujours la peur que nous avons de notre propre agressivité. Parce que nous sommes animés d'agressivité, tous, pas plus les hommes que les femmes. Et évidemment,
vous nous dites souvent que la sexualité, il y a quelque chose d'agressif, de toute façon, dans la sexualité en général.
Bien sûr. Et comme pénétrer, c'est pénétrer le corps de l'autre. Donc, dans l'imaginaire de l'individu, il faut une certaine présence et brusquerie, mais pour autant que ça ne soit pas perçu comme une agressivité. Or, dans ce cas-là, quand il est mal à l'aise, c'est la peur que sa propre gestuelle puisse s'apparenter à quelque chose de violent, d'insultant, de dénigrant. Et c'est sa culpabilité qui vient mettre le haut là et qui vient l'en protéger lui-même et au passage protéger sa compagne. Donc ça, c'est plutôt extrêmement sain, en effet.
Mais c'est du sadomasochisme, c'est ça, finalement? Une femme qui demande à se faire serrer le cou, ça paraît... Est-ce que c'est ça, le sadomasochisme?
Non, c'est pas ça, le sadomasochisme. Ceci étant, c'est une expression de sadomasochisme. C'est-à-dire que c'est vraiment se dire que mon excitation, elle passe par une idée d'être dominée par l'autre, d'être assujettie, d'être réduite. Et ça pose évidemment la question, qu'est-ce qui, dans l'histoire de cette femme, lui a fait penser que là était l'expression ou la liberté de sa sexualité? Comme si, dès lors qu'elle n'était pas insultée, eh bien, elle devenait une vierge, elle devenait du coup quelqu'un à câliner et à aimer tendrement, et comme si la sexualité ne pouvait pas trouver un chemin dans cette relation de douceur et de bienveillance.
Docteur Jimmy Mohamed.
Est-ce qu'on peut différencier deux choses? Un, si c'est un mode de fonctionnement normal, si sa compagne a besoin de ça à chaque fois pour avoir un orgasme ou être excitée, ou si c'est dans le cadre d'un fantasme, est-ce qu'on peut y répondre peut-être en dosant, en faisant... pas trop mal, mais est-ce que ça vaut le coup? Enfin, c'est peut-être un peu confus.
Oui, non, je crois que ce qui est très difficile, c'est que d'abord, si on le fait en le faisant un peu, il y a toujours une surveillance, parce que si on le fait naturellement, parce que c'est son truc aussi, et du coup, le couple y trouve son modus operandi, si par contre, je cède au désir de l'autre, je vais avoir peur, en y prenant un certain plaisir, une certaine excitation, je vais avoir peur de tomber là-dedans et de renvoyer ce que je disais tout à l'heure, une culpabilité à être agressif. Donc, du coup, l'homme est obligé de le faire en dosant, du coup, il se regarde, il se surveille, plus il se regarde, plus il se surveille, moins il a des excitation. Donc du coup, il répond au désir de la femme sans pour autant pouvoir pleinement participer à l'acte sexuel avec elle.
Donc il refuse pas, ou il lui dit écoute, c'est pas mon truc. Et puis,
il peut dire écoute, je trouve ça assez curieux, c'est pas mon truc, bon, on le fait une fois pour voir, et puis non, franchement, et puis peut-être interroger, mais c'est quand même bizarre. Une fois, c'est une chose, mais si c'est systématique, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi penses-tu que ce ne soit que par ce biais-là que tu puisses être autorisée à la jouissance? Sans jugement, bien sûr, mais qu'est-ce qui se joue là-dedans?
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Nous parlerons demain de la cellulite qui nous enquiquine la vie à l'approche des beaux jours. Tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipé sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous aujourd'hui. C'est un artiste extrêmement attachant en plus d'être talentueux qui était avec nous cet après-midi, Louis Chédid. Il a sorti un nouvel album qui, vous allez voir, ne respecte pas les gestes barrières, mais on s'en fout.
Merci beaucoup Mathieu, on sera à l'écoute. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.